Grâce au conteur Saint-Guillon-le, j'apprends à passer à l'heure indienne.
L'heure était à la parole dans la salle des fêtes de Saint-Vincent sur Jabron. Jean Guillon a emporté les spectateurs dans son sillon à la rencontre de l'Inde avec son nouveau spectacle « Dans l'ombre claire des temples de l'Inde ». Tout un univers fait de mystères et de légendes que le conteur a su faire vivre au gré des sentiers imaginaires. Une salle comble l'a suivi jusqu'aux portes des temples sacrés, le temps de la magie d'un spectacle. Et pendant une soirée, le Jabron avait des airs de Gange. Mais comment ce conteur pur marseillais est-il tombé sous le charme de l'Inde ? Jean Guillon, au micro de Chris Alessandri.
Il y avait une phrase qui était attachée à Marseille. Il y a longtemps, on n'ose plus la dire maintenant, c'était « Marseille, porte de l'Orient ». C'est assez comique. Aujourd'hui, on n'ose plus faire ça parce que l'Orient, c'est le Proche-Orient qui est trop présent. Mais en fait, pour moi, l'Inde a toujours brillé de mille éclats mystérieux. Jusqu'à ce que je puisse y aller, que je me rende compte que ces éclats mystérieux, c'était dans mes yeux qu'ils étaient. Voilà, donc c'est une attirance qui vient de très très loin dans ma vie.
Alors là, dans ce spectacle, nous sommes vraiment entre rêve, réalité, entre aventure, entre légende également. De quelle façon se construit le spectacle ? Parce qu'on était habitué à vous voir sur scène avec Frédéric Mistral, que vous connaissez bien.
Oui, bien sûr, on m'a commandé un spectacle sur Frédéric Mistral il y a 2 ans. Enfin, mais ça, je raconte aussi des contes provençaux traditionnels. Donc, si vous voulez, pour moi, l'Inde, c'est une aventure que j'aime faire partager. Donc, je mêle ce que la tradition raconte sur ce que nous, on pourrait appeler le catéchisme, si vous voulez, c'est-à-dire les histoires des dieux. Et puis aussi, il y a un fil rouge que je suis, qui me semble important, en ce qui concerne la pensée de l'Inde, c'est la volonté de se libérer de sa condition humaine, la volonté de connaître autre chose que la condition humaine. Et ça, c'est dans la culture de l'Inde, un fil rouge que j'essaie de suivre au plus près. Alors j'y mêle effectivement des histoires cocasses, j'y mêle les histoires des dieux, plutôt que de faire des parallèles.
Je pense au principe du conte, est-ce qu'il reste le même, le principe même d'échanger cette interrelation que vous avez ?
Ça, le conte existe quand il y a un public, une histoire et un conteur pour la raconter, ou une conteuse bien sûr. Donc ce principe-là, il peut s'habiller de 1000 couleurs, 1000 cultures. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons accès à des cultures très différentes, grâce aux voyages, grâce aux moyens d'information, grâce aux personnes qui voyagent aussi, qui véhiculent avec eux ou avec elles les merveilles de leur pays. Donc des rencontres qui peuvent ouvrir des portes sur d'autres cultures, et ça, c'est merveilleux. Donc effectivement, le principe du conte, pour moi, c'est une histoire dans le moment, dans l'instant. Et en dehors de ça, y a un squelette, c'est-à-dire la mémoire écrite, ou raconter, il y a des oreilles et il y a un souffle. Et quand ces trois choses-là sont réunies, alors il peut y avoir un conte.
Vous êtes un habitué de la route, vous sillonnez l'Europe, de Rome à Glasgow, entre autres. Est-ce que le conte passe systématiquement par la route ?
Non, il y a toujours eu 2 catégories de conteurs, les sédentaires et les nomades. Les sédentaires étaient plutôt des conteurs urbains. Il y en a encore au Moyen-Orient. Ce sont parfois des coiffeurs ou des boulangers, des gens qui ont une notoriété dans un quartier et chez qui tout le monde s'assemble pour écouter des histoires. Dans les campagnes, il y avait aussi des conteurs qui avaient aussi une notoriété de conteurs, donc on venait chez eux ou eux-mêmes se déplaçaient. Et puis il y avait le conteur itinérant, c'était un voyageur qui à l'époque, bien avant qu'il y ait des journaux et des radios, colportait les nouvelles. Donc il était reçu, il était accueilli dans les maisons, ou dans les fermes, ou dans des villages, ou dans des villes, et il colportait avec lui ce qui se passait autour.
Est-ce que vous avez besoin, peut-on dire, de certaines balises pour vous trouver vraiment dans l'univers du conte et pouvoir échanger ? Est-ce qu'il y a vraiment un contexte qu'il faut trouver ou qu'il faut créer systématiquement ?
C'est une belle idée ce que vous dites là. Le contexte est très important parce que la mémoire n'est pas dans la tête, la mémoire est dans l'espace. Et donc il faut que cet espace vibre d'une certaine façon, résonne plutôt à la teneur des histoires. C'est pour ça qu'ici, à Saint-Vincent, les gens qui m'accueillent, qui sont adorables, ont eu à cœur de décorer la salle où nous allons raconter et où ça va se passer. Donc il y a un diapason aussi au niveau des images qui permet d'entrer plus facilement dans les histoires.
On dit de Jean Guillon que c'est un conteur dont on ne se lasse pas. que c'est un conteur sans compter. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je n'ai rien à en penser, les gens disent ce qu'ils veulent.
Est-ce que vous avez peut-être une petite part de magie également que vous savez peut-être guider et gérer en même temps ?
Soit c'est la magie du spectacle, et ça c'est une chose à part entière, c'est un art d'aborder le public à part entière, soit il y a une part de mystère ou de sacré qui existe et qui vient du moment où il y a une rencontre. S'il y a une vraie rencontre, il y a une magie qui vient de la rencontre, ça c'est sûr.
Jean-Guillon, on parlait de contexte, donc pour le conteur et pour le public qui est là, le grand bavardage. Là, vous entrez dans une autre dimension, ça se passe à Marseille, avec une table de 300 mètres de long, et vous comptez. Alors là, la relation, elle se fait comment avec le public ?
Oui, c'était pour 2013, Capitale Européenne de la Culture. Ça avait été une très belle expérience où il y avait donc une table de 300 mètres. Il y avait des sessions, on racontait pendant 20 minutes. Et donc, pour que plusieurs personnes viennent, partagent le repas qu'elles avaient envie de partager et en même temps écoutent des histoires ou d'autres choses. Et donc, hop, au bout d'un moment, il fallait s'arrêter. J'arrêtais l'histoire au milieu ou presque à la fin et les gens étaient suspendus. Ils voulaient écouter la suite et ils revenaient. Et voilà. Mais ça, c'est tout à fait autre chose. C'est un travail que j'appellerais sur mesure pour une manifestation précise. Mais sinon, raconter dans la rue, c'est aussi mon métier. C'est comme ça que j'ai commencé. Assis par terre, sur un tapis, et puis voilà.
Je pense qu'il y a une bonne dose, bien sûr, de complicité, mais j'ai l'impression qu'il faut être éponge en même temps aussi. Est-ce que vous êtes éponge ?
Il faut écouter. C'est primordial. Il faut écouter de façon à ce que s'installer une qualité de silence dans laquelle la parole prend tout son relief et dans laquelle elle retourne.
Avec le spectacle Le Rêve d'Icare, vous emportez effectivement dans tout un univers. Par rapport à Icare, justement, est-ce que le conteur que vous êtes s'approche ou cherche un soleil quelque part ?
Il y a une étoile qui me guide. C'est le moment très étrange où une parole proférée nous échappe. C'est-à-dire que je ne sais pas celle qui va suivre. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire que ce n'est certainement pas moi qui parle, mais c'est un moment en soi. La personne tremble devant cela parce qu'elle disparaît. Et ça, c'est un moment béni qui advient, qui m'est déjà arrivé par chance et qui fait que je continue mon métier. Ça advient. Et quand cela advient, les personnes qui sont rassemblées, tout le monde comprend la même chose au même moment. C'est un peu comme dans le jazz, la Blue Note. C'est un moment unique où les choses se déroulent d'elles-mêmes sans que personne n'interfère. Donc c'est leur propre présence qui s'impose et tout le monde comprend la même chose au même moment, ce qui est rarissime.